Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. De nouveau ensemble dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Françoise Sagan, Bonjour Tristesse. Le lendemain matin, je me retrouvais devant une phrase de Bergson. Il me fallut quelques minutes pour la comprendre. Quelque hétérogénéité qu'on puisse trouver d'abord entre les faits et les causes, et bien qu'il y ait loin d'une règle de conduite à une affirmation sur le fond des choses, c'est toujours, dans un contact avec le principe générateur de l'espèce humaine, qu'on s'est senti puiser la force d'aimer l'humanité. Je me répétais cette phrase doucement d'abord pour ne pas m'énerver, puis à haute voix. Je me pris la tête dans les mains et la regardai avec attention. Enfin, je la compris et je me sentis aussi froide, aussi impuissante qu'en la lisant pour la première fois. Je ne pouvais pas continuer. Je regardais les lignes suivantes, toujours avec application et bienveillance, et soudain, quelque chose se leva en moi comme un vent, me jeta sur mon lit. Je pensais à Cyril qui m'attendait sur la crique dorée, au balancement doux du bateau, au goût de nos baisers, et je pensais à Anne. J'y pensais d'une telle manière que je m'assis sur mon lit, le cœur battant, en me disant que c'était stupide et monstrueux, que je n'étais qu'une enfant gâtée et paresseuse et que je n'avais pas le droit de penser ainsi. Et je continuais malgré moi à réfléchir. À réfléchir qu'elle était nuisible et dangereuse et qu'il fallait l'écarter de notre chemin. Je me souvenais de ce déjeuner que je venais de passer les dents serrées, ulcérées, défaites par la rancune, un sentiment que je me méprisais, me ridiculisais d'éprouver. Oui, c'est bien là ce que je reprochais à Anne. Elle m'empêchait de m'aimer moi-même. Moi, si naturellement faite pour le bonheur, l'amabilité, l'insouciance, j'entrais par elle dans un monde de reproches, de mauvaise conscience, où, trop inexperte à l'introspection, je me perdais moi-même. Et que m'apportait-elle? Je mesurais sa force. Elle avait voulu mon père, elle l'avait. Elle allait peu à peu faire de nous le mari et la belle-fille d'Anne Larsen. C'est-à-dire des êtres polissés, bien élevés et heureux. Car elle nous rendrait heureux. Je sentais bien avec quelle facilité nous, instables, nous céderions à cet attrait des cadres de l'irresponsabilité. Elle était beaucoup trop efficace. Déjà mon père se séparait de moi. Ce visage gêné, détourné, qu'il avait eu à table m'obsédait, me torturait. Je me souvenais avec une envie de pleurer de toutes nos anciennes complicités, de nos rires, quand nous rentrions à l'aube en voiture dans les rues blanches de Paris. Tout cela était fini. À mon tour, j'allais être influencé, remanié, orienté par Anne. Je n'en souffrirais même pas. Elle agirait par l'intelligence, l'ironie, la douceur. Je n'étais pas capable de lui résister. Dans 6 mois, je n'en aurais même plus envie. Il fallait absolument se secouer, retrouver mon père et notre vie d'antan. De quel charme ne se paraît pas pour moi subitement les deux années joyeuses et incohérentes que je venais d'achever. Ces deux années que j'avais si vite reniées l'autre jour. La liberté de penser et de mal penser et de penser peu. La liberté de choisir moi-même ma vie, de me choisir moi-même. Je ne peux dire d'être moi-même, puisque je n'étais rien qu'une pâte modelable, mais celle de refuser les moules. Je sais trop qu'on peut trouver à ce changement des motifs compliqués, que l'on peut me doter de complexes magnifiques, un amour incestueux pour mon père ou une passion malsaine pour Anne. Mais je connais les causes réelles. Ce furent la chaleur. Bergson, Cyril, ou du moins l'absence de Cyril. J'y pensais tout l'après-midi dans une suite d'états désagréables, mais tous issus de cette découverte que nous étions à la merci d'Anne. Je n'étais pas habitué à réfléchir, cela me rendait irritable. À table, comme le matin, je n'ouvris pas la bouche. Mon père se crut obligé d'en plaisanter. « Oh, ce que j'aime dans la jeunesse, c'est son entrain, sa conversation. » Je le regardais violemment, avec dureté. Il était vrai qu'il aimait la jeunesse, et avec qui avais-je parlé si ce n'est avec lui ? Nous avions parlé de tout, de l'amour, de la mort, de la musique. Il m'abandonnait, me désarmait lui-même. Je le regardais, je pensais « Tu ne m'aimes plus comme avant, tu me trahis » et j'essayais de le lui faire comprendre sans parler. J'étais en plein drame. Il me regarda aussi subitement alarmé, comprenant peut-être que ce n'était plus un jeu et que notre entente était en danger. Je le vis se pétrifier, interrogateur. Anne se tourna vers moi. « Vous avez mauvaise mine ? J'ai des remords de vous faire travailler. » Je ne répondis pas, je me détestais trop moi-même pour cette espèce de drame que je montais et que je ne pouvais plus arrêter. Nous avions fini de dîner. Sur la terrasse, dans le rectangle lumineux projeté par la fenêtre de la salle à manger, je vis la main d'Anne, une longue main vivante, se balancer. Trouver celle de mon père. Je pensais à Cyril. J'aurais voulu qu'il me prît dans ses bras, sur cette terrasse criblée de cigales et de lune. J'aurais voulu être caressé, consolé, raccommodé avec moi-même. Mon père et Anne se taisaient. Ils avaient devant eux une nuit d'amour. J'avais Bergson. J'essayais de pleurer, de m'attendrir sur moi-même, en vain. C'était déjà sur Anne que je m'attendrissais, comme si j'avais été sûr de la vaincre. La netteté de mes souvenirs à partir de ce moment m'étonne. J'acquérais une conscience plus attentive des autres, de moi-même. La spontanéité, un égoïsme facile, avait toujours été pour moi un luxe naturel. J'y avais toujours vécu. Or, voici que ces quelques jours m'avaient assez troublé pour que je sois amené à réfléchir, à me regarder vivre. Je passais par toutes les affres de l'introspection, sans pour cela me réconcilier avec moi-même. Ce sentiment, pensais-je, ce sentiment à l'égard d'Anne est bête et pauvre, comme ce désir de la séparer de mon père est féroce. Mais après tout, pourquoi me juger ainsi? Étant simplement moi, n'étais-je pas libre d'éprouver ce qui arrivait? Pour la première fois de ma vie, ce « moi » semblait se partager. Et la découverte d'une telle dualité m'étonnait prodigieusement. Je trouvais de bonnes excuses, Je me les murmurais à moi-même, me jugeant sincère, et brusquement, un autre moi surgissait, qui s'inscrivait en fou contre mes propres arguments, me criant que je m'abusais moi-même, bien qu'ils eussent toutes les apparences de la vérité. Mais n'était-ce pas en fait cet autre qui me trompait ? Cette lucidité n'était-elle pas la pire des erreurs ? Je me débattais des heures entières dans ma chambre pour savoir si la crainte, l'hostilité que m'inspirait Anne à présent se justifiait, ou si je n'étais qu'une petite jeune fille égoïste et gâtée en veine de fausse indépendance. En attendant, je maigrissais un peu plus chaque jour. Je ne faisais que dormir sur la plage. Et au repas, je gardais malgré moi un silence anxieux qui finissait par les gêner. Je regardais Anne. Je l'épiais sans cesse. Je me disais, tout au long du repas, ce geste qu'elle a eu vers lui, n'est-ce pas l'amour, un amour comme il n'en aura jamais d'autre ? Et ce sourire vers moi, avec ce fond d'inquiétude dans les yeux, comment pourrais-je lui en vouloir ? Mais soudain, elle disait, « Quand nous serons rentrés, Raymond ?» Alors l'idée qu'elle allait partager notre vie, y intervenir, me hérissait. Elle ne me semblait plus qu'habileté et froideur. Je me disais, elle est froide. Nous sommes chaleureux. Elle est autoritaire. Nous sommes indépendants. Elle est indifférente. Les gens ne l'intéressent pas. Ils nous passionnent. Elle est réservée. Nous sommes gais. Il n'y a que nous deux de vivants et elle va se glisser entre nous avec la tranquillité. Elle va se réchauffer, nous prendre peu à peu notre bonne chaleur insouciante. Elle va nous voler tout comme un beau serpent. Je me répétais, un beau serpent, un beau serpent. Elle me tendait le pain et soudain je me réveillais, je me criais, « Mais c'est fou, c'est Anne, l'intelligente Anne, celle qui s'est occupée de toi. Sa froideur est sa forme de vie, tu ne peux y voir du calcul. Son indifférence la protège de mille petites choses sordides, c'est un gage de noblesse. » Un beau serpent. Je me sentais blêmir de honte. Je la regardais, je la suppliais tout bas de me pardonner. Parfois, elle surprenait ses regards et l'étonnement, l'incertitude assombrissait son visage, coupait ses phrases. Elle cherchait instinctivement mon père des yeux. Il la regardait avec admiration ou désir, ne comprenait pas la cause de cette inquiétude. Enfin, j'arrivais peu à peu à rendre l'atmosphère étouffante et je m'en détestais.
Gentleman un peu noir a une poule dans un bar, offrait champagne et caviar, et on trouverait sa mémoire. Ce gentleman dans son frac disait, poupée, si je claque, je veux que ce soit dans un lac. Un lac de cognac, écoute-moi bien. J'avais 30 ans, écoute-moi bien. J'étais tentant, je n'avais pas encore de dents en or. Les femmes se battaient pour m'approcher. Regarde-moi bien, qu'est-ce que t'en penses? Regarde-moi bien, tu me trouves l'air rance. Mais fallait me voir danser le Charleston quand j'avais 30 ans à Cannon Carlton. Ce gentleman un peu noir a tout cassé dans le bar, puis a sorti ses dollars et distribué des pourboires. Ce gentleman dans son frac est pianiste Vladisac. Joue les vieux airs sans entracte. Allez, joue en vrac.
joue-moi Didine. Titine. C'est vrai que tu lui ressembles à ma Titine, à moi. Ça s'appelait pas Titine, ça s'appelait Totoche. Et un jour, elle est partie. Et hop. Elle n'a plus de Totoche. Elle avait un grain de beauté là, sur la pommette. Ah, mais toi aussi, t'as un grain de beauté là. Des nuits entières, on a dansé le Charleston, Totoche et moi. En 1925. Plus fort, là, on t'entend pas. Allez, joue, joue. Alors, pas un rond, mais vernis, nickelé, chromé, j'étais. J'avais 30 ans. 30 ans. 30 ans. Plus fort, le Charleston, c'est pas la pavane pour l'infant de défunte. Elle était encore dans l'œuf à cette époque-là. C'est jeune et c'est joumou. Hein. Attends, attends, je vais te montrer. Écoute-moi bien, garde la cadence. Écoute-moi bien, qu'est-ce que t'en penses? Il fallait, fallait me voir danser le Charleston quand j'avais 30 ans à Cannes ou Carlton.
Retour au roman de Françoise Sagan, Bonjour Tristesse.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Mon père souffrait autant qu'il lui était dans son cas possible de souffrir, c'est-à-dire peu, car il était fou d'Anne, fou d'orgueil et de plaisir, et il ne vivait que pour ça. Un jour, cependant, où je somnolais sur la plage après le bain du matin, il s'assit près de moi et me regarda. Je sentais son regard peser sur moi. J'allais me lever et lui proposer d'aller à l'eau avec l'air faussement enjoué qui me devenait habituel quand il posa sa main sur ma tête et éleva la voix d'un ton lamentable. « Anne, venez voir cette sauterelle, elle est toute maigre. Si le travail lui fait cet effet, il faut qu'elle s'arrête. » Il croyait tout arrangé. Et sans doute 10 jours plus tôt, cela eut tout arrangé. Mais j'étais arrivé bien plus loin dans les complications et les heures de travail pendant l'après-midi ne me gênaient plus, étant donné que je n'avais pas ouvert un livre depuis Bergson. Anne s'approchait. Je restais couché sur le ventre dans le sable, attentive au bruit étouffé de ses pas. Elle s'assit de l'autre côté et murmura « C'est vrai que ça ne lui réussit pas. D'ailleurs, il lui suffirait de travailler vraiment, au lieu de tourner en rond dans sa chambre. » Je m'étais retourné. Je les regardais. Comment savait-elle que je ne travaillais pas? Peut-être même avait-elle deviné mes pensées. Je la croyais capable de tout. Cette idée me fit peur. « Je ne tourne pas en rond dans ma chambre, » protestai-je. « Est-ce ce garçon qui te manque ?» demanda mon père. « Non. » C'était un peu faux. Mais il est vrai que je n'avais pas eu le temps de penser à Cyril. « Et pourtant, tu ne te portes pas bien, » dit mon père sévèrement. « Anne, vous la voyez, on dirait un poulet qu'on aurait vidé et mis à rôtir au soleil. » « Ma petite Cécile, » dit Anne, « faites un effort, travaillez un peu et mangez beaucoup. Cet examen est important. »« Je me fous de mon examen, » criai-je. « Vous comprenez, je m'en fous. » Je la regardais désespérément, bien en face, pour qu'elle comprît que c'était plus grave qu'un examen. Il fallait qu'elle me dise « Alors, qu'est-ce que c'est ?» Qu'elle me harcèle de questions, qu'elle me force à tout lui raconter. Et là, elle me convaincrait, elle déciderait ce qu'elle voudrait, mais ainsi je ne serais plus infesté de ces sentiments acides et déprimants. Elle me regardait attentivement. Je voyais le bleu de Prusse de ses yeux assombris par la tension, le reproche. Et je compris que jamais elle ne penserait à me questionner, à me délivrer, parce que l'idée ne l'effleurait pas et qu'elle estimait que cela ne se faisait pas. Et qu'elle ne me prêtait pas une de ces pensées qui me ravageaient, ou que si elle le faisait, c'était avec mépris et indifférence. Tout ce qu'elle méritait d'ailleurs. Anne accordait toujours aux choses leur importance exacte. C'est pourquoi jamais, jamais, je ne pourrais traiter avec elle. Je me rejetai sur le sable avec violence. J'appuyai ma joue sur la douceur chaude de la plage. Je soupirai, je tremblai un peu. La main d'Anne, tranquille et sûre, se posa sur ma nuque. Me maintint immobile un instant, le temps que mon tremblement nerveux s'arrête. « Ne vous compliquez pas la vie, » dit-elle. Vous qui étiez si contente et si agitée, vous qui n'avez pas de tête, vous devenez cérébrale et triste. Ce n'est pas un personnage pour vous. Je sais, dis-je, moi, je suis le jeune être inconscient et sain, plein de gaieté et de stupidité. Venez déjeuner, dit-elle. Mon père s'était éloigné, il détestait ce genre de discussion. Dans le chemin, il me prit la main et la garda. C'était une main dure et réconfortante. Elle m'avait mouché à mon premier chagrin d'amour. Elle avait tenu la mienne dans les moments de tranquillité et de bonheur parfait. Elle l'avait serrée furtivement dans les moments de complicité et de fou rire. Cette main sur le volant ou sur les clés, le soir, cherchant vainement la serrure, cette main sur les épaules d'une femme ou sur des cigarettes, cette main ne pouvait plus rien pour moi. Je la serrai très fort. Se tournant vers moi, il me sourit. 2 jours passèrent. Je tournais en rond, je m'épuisais. Je ne pouvais me libérer de cette hantise. Anne allait saccager notre existence. Je ne cherchais pas à revoir Cyril. Il m'eût rassuré, apporté quelque bonheur et je n'en avais pas envie. Je mettais même une certaine complaisance à me poser des questions insolubles, à me rappeler les jours passés, à craindre ce qui suivrait. Il faisait très chaud. Ma chambre était dans la pénombre, les volets clos, mais cela ne suffisait pas à écarter une pesanteur, une moiteur de l'air insupportable. Je restais sur mon lit, la tête renversée, les yeux au plafond, bougeant à peine pour retrouver un morceau de drap frais. Je ne dormais pas, mais je mettais sur le pick-up au pied de mon lit des disques lents sans mélodie, juste cadencée. Je fumais beaucoup, je me trouvais décadente et cela me plaisait. Mais ce jeu ne suffisait pas à m'abuser. J'étais triste et désorienté. Un après-midi, la femme de chambre frappa à ma porte et m'avertit d'un air mystérieux qu'il y avait quelqu'un en bas. Je pensai aussitôt à Cyril. Je descendis, mais ce n'était pas lui. C'était Elsa. Elle me serra les mains avec effusion. Je la regardai et je m'étonnai de sa nouvelle beauté. Elle était enfin hâlée, d'un hâle clair et régulier, très soigné, éclatante de jeunesse. « Je suis venue prendre mes valises, » dit-elle. « Juan m'a acheté quelques robes ces jours-ci, mais ce n'était pas suffisant. » Je me demandais un instant qui était Juan et passai outre. J'avais plaisir à retrouver Elsa. Elle transportait avec elle une ambiance de femme entretenue, de bar, de soirée facile qui me rappelait des jours heureux. Je lui dis que j'étais contente de la revoir et elle m'assura que nous nous étions toujours bien entendus car nous avions des points communs. Je dissimulai un léger frisson et lui proposai de monter dans ma chambre, ce qui lui éviterait de rencontrer mon père et Anne. Quand je lui parlai de mon père, elle ne put réprimer un petit mouvement de la tête et je pensai qu'elle l'aimait peut-être encore, malgré Joanne et ses robes. Je pensai aussi que 3 semaines plus tôt, je n'aurais pas remarqué ce mouvement. Dans ma chambre, je l'écoutais parler avec force éclat de la vie mondaine et grisante qu'elle avait menée sur la côte. Je sentais confusément se lever en moi des idées curieuses qu'inspirait en partie son nouvel aspect. Enfin, elle s'arrêta d'elle-même, peut-être à cause de mon silence, fit quelques pas dans la chambre et, sans se retourner, me demanda d'une voix détachée si Raymond était heureux. J'eus l'impression de marquer un point. Et je compris aussitôt pourquoi. Alors des foules de projets se mélangèrent dans ma tête, des plans se dressèrent, je me sentis succomber sous le poids de mes arguments. Aussi rapidement je sus qu'il fallait lui dire « Heureux, c'est beaucoup dire ». Anne ne lui laisse pas croire autre chose, elle est très habile. « Très », soupira Elsa. Vous ne devinerez jamais ce qu'elle a décidé de faire. Elle va l'épouser. Elle détourna vers moi un visage horrifié. L'épouser ? Raymond veut se marier, lui ? Oui, dis-je, Raymond va se marier. Une brusque envie de rire me prenait à la gorge, mes mains tremblaient. Elsa semblait désemparée, comme si je lui avais porté un coup. Il ne fallait pas la laisser réfléchir et déduire qu'après tout, c'était de son âge et qu'il ne pouvait passer sa vie avec des demi-mondaines. Je me penchai en avant et baissai soudain la voix pour l'impressionner. « Il ne faut pas que cela se fasse, Elsa. Il souffre déjà. Ce n'est pas une chose possible, vous le comprenez bien. »« Oui, » dit-elle. Elle paraissait fascinée. Cela me donnait envie de rire et mon tremblement augmentait. « Je vous attendais, » repris-je. « Il n'y a que vous qui soyez de taille à lutter contre Anne. Vous seul avez la classe suffisante. » Manifestement, elle ne demandait qu'à me croire. « Mais s'il l'épouse, c'est qu'il l'aime, » objecta-t-elle. « Allons, » dis-je doucement, « c'est vous qu'il aime, Elsa. N'essayez pas de me faire croire que vous l'ignorez. » Je la vis battre des paupières, se détourner pour cacher le plaisir, l'espoir que je lui donnais. J'agissais dans une sorte de vertige. Je sentais exactement ce qu'il fallait lui dire. « Vous comprenez, dis-je, elle lui a fait le coup de l'équilibre conjugal du foyer, de la morale. Et elle l'a eu. » Voilà, nous avons terminé pour ce soir donc la suite de ce roman de Françoise Sagan, Bonjour Tristesse, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.